Le projet de canal Seine-Nord-Europe doit relier Aubenchel au Bac près de Cambrai et Compiègne. Long de 107 km, large de 54 mètres, il deviendrait le maillon central d'un réseau fluvial à grand gabarit entre l'Île-de-France et l'Europe du Nord. Avec 78 millions de mètres cubes de déblais prévus, 2450 hectares d'emprises agricoles, 35 millions de mètres cubes d'eau prélevée pour un coût aujourd'hui réévalué à plus de 7 milliards d'euros, sa construction engage des travaux d'infrastructure qui représentent 10 fois le tunnel sous la Manche en matière d'excavation de terre. Promu pour désengorger le réseau routier, présenté comme un mode de transport de marchandises plus écologique, mis en avant comme une infrastructure créatrice d'emplois, le canal Seine-Nord-Europe est contesté pour son impact environnemental négatif. Les bénéfices socio-économiques annoncés sont également remis en cause par des associations et collectifs opposés à sa construction. À Ittre, un village à quelques kilomètres de Bapaume dans le sud Artois, une tranchée de 47 mètres de profondeur sera creusée pour faire passer le canal. Cette tranchée se trouvera à 25 mètres de la ferme d'Yves Courteau, agriculteur opposant au projet. Nous avons rencontré Yves sur sa ferme. Il expose les préjudices subis, comme la prise de possession de 25% de ses terres agricoles. Il témoigne du manque de considération par les autorités publiques et la société du canal pour les habitants du village et leur lieu de vie.
Moi, je m'appelle Yves, donc je suis agriculteur ici à Ittre, donc sur une exploitation qui n'est pas très grande, elle fait 50 hectares. Je cultive du blé, des betteraves, du colza, des pois de conserve. Donc c'est la ferme familiale, aussi longtemps qu'on puisse remonter, on est remonté 6 générations, et puis avant on n'a pas les archives, donc c'est vraiment la ferme de la famille. Donc ce projet-là de canal, c'est vrai que, j'allais dire il nous pourrit la vie, mais c'est ça en fait, il me pourrit la vie quand même, depuis 20 ans. C'est depuis 2004 ici le projet, où il y a des sondages, des projets de tracés à droite, à gauche, au milieu. Et là, c'est vrai que plus ça va, pire c'est. Je crois que la prochaine fois, ils passeront sur la ferme. Mais on est au troisième projet ici, et à chaque fois, ils sont rapprochés de plus en plus, quoi. Et donc là, c'est vrai que l'impact direct sur la ferme, c'est à peu près un quart de la ferme qui est impactée. Ça va faire des agriculteurs touchés. Sur ce genre d'infrastructure, il y en a toujours. Mais c'est surtout la très grande proximité par rapport au bâtiment d'exploitation, autour de 30 mètres. Et la profondeur de l'ouvrage, autour de 50 mètres. Donc ça, c'est ce qui me fait... Ce qui me fait quand même beaucoup de crainte. Les accès aux bâtiments de ferme qui sont supprimés, les accès aux parcelles, ils appellent ça des rétablissements, c'est-à-dire rétablir les accès, c'est eux qui en décident. On n'a pas notre mot à dire, il faudra voir. On n'est même pas consulté, on n'est même pas informé sur ces choses-là, quoi. On le découvre parce que je suis un peu curieux, je cherche sur les plans, mais il faut zoomer, c'est flou. On s'occupe de nous, on s'occupe de nous, mais on n'a pas notre mot à dire. C'est aussi le sentiment que j'ai en fait par rapport à ce genre de grand projet, c'est qu'on n'a rien à dire, quoi. Et on prend ce que vous avez, on n'a rien à dire, quoi. Il y a les semblants d'échange, mais c'est bien des semblants. Donc là, je me suis arrêté là, parce que là, c'est à peu près ici que ça commence, quoi. Enfin, je sais qu'il laisse la porte à mon voisin. Donc ça, c'est mon voisin, moi, celui-là. Donc ça doit être quelque part ici, et le cimetière est là-bas.
Donc on est à quoi? Ouais, à 25 mètres de votre hangar, là, à partir d'ici...
Les plans, j'ai pas la précision, j'ai vu qu'il laissait la porte, alors c'est à 2-3 mètres, je peux pas vous dire si c'est là ou là. À partir de là, donc, il y a une tranchée, c'est le cas de le dire, qui va faire 47 mètres de profondeur, ici. Et donc le cimetière, c'est la haie qu'on voit là-bas. Là.
Qu'est-ce qui sont vos terres, là, dans tout ça?
Alors moi, je cultive en face, là.
Là, juste là, ouais.
Donc moi, j'ai 11 hectares, là. Alors moi, l'impact sur mon exploitation, c'est en termes de surface. Donc effectivement, celles-là, c'est les parcelles les plus proches de la ferme. J'ai 11 hectares ici en face qui sont quasiment intégralement utilisées, comme toute la parcelle. J'ai 15 hectares par là, donc 11 hectares, ça fait un quart de la ferme. J'en ai un tiers par là où l'accès là est supprimé. Je ne sais pas comment j'accéderai demain à ces parcelles, quoi. Mais ça sera rétabli, mais je ne sais pas bien comment, quoi. On ne peut pas participer à l'élaboration de la solution. Cette route-là, elle est supprimée aussi, forcément, parce que le pont, il va être... Les ponts sont faits à l'équerre, pour qu'ils soient les plus courts possibles. Et donc, en fait, le pont, il va passer là, plutôt dans la parcelle, pour arriver à peu près... dans la haie, là-bas, là où il y a un trou, quoi.
Ah oui, donc non seulement il y a le canal qui prend une partie des terres, mais comme on va changer la route et qu'on va y faire un pont, il y a aussi cette emprise-là sur vos terres agricoles.
C'est ça, bah c'est ce qui me reste là, en fait, bah c'est pareil. Voilà. Donc la route est déplacée, donc l'accès à mes bâtiments, bah, il est supprimé aussi. Alors on ne m'informe pas du tout de comment j'accéderai à mes bâtiments, les bâtiments de la ferme. Hein. J'ai eu aucun contact là-dessus, quoi. Et l'impact donc, le plus sévère, c'est qu'effectivement, et là on ne m'informe pas non plus, c'est que j'ai une tranchée de 50 mètres de profondeur à 25 mètres de mes bâtiments. Enfin, le risque aujourd'hui le plus grand, c'est ça pour moi, quoi.
C'est vous qui avez les bâtiments les plus proches du canal.
Mon voisin ne doit pas être très très loin non plus, quoi. Alors ça ne serait rien si le canal était à niveau, hein. Mais il faut se rendre compte que être à 25 mètres d'un trou de 50 mètres de profondeur, enfin j'aimerais mieux être à 50 mètres d'un trou de 25 mètres de profondeur, ça serait un peu moins risqué, quoi. Il est évident que si ça bouge... Donc oui, je cumule un petit peu les inconvénients. Et pour autant, je n'ai vraiment pas l'impression d'être traité comme un cas particulier, quoi. Je dis ne serait-ce que les rétablissements au bâtiment, aux parcelles. Et c'est pas faute de leur avoir écrit, d'avoir fait des plans. J'ai rencontré, quand même, je dois dire, il y a une personne qui est venue une fois de la Société du Canal, je crois que c'était en 2021, en octobre 2021. Et jamais de retour. Je dis oui, on viendra vers vous, ils sont jamais revenus, quoi. Et,
vous avez fait des recours pour essayer de vous opposer, je ne sais pas, à l'arrêté de prise de possession des terres ou ce genre de choses?
Oui, mais en fait, rien de ce qui est écrit dans les protocoles est respecté, quoi. Et donc, j'ai voulu, quand je dis m'opposer, juste pas signer les documents avec lesquels ils viennent. Et si vous ne les signez pas, et effectivement, ils saisissent le tribunal administratif, quoi. Et ils rentrent de force dans vos parcelles, quoi. Et vous n'êtes pas indemnisé. Et donc, j'ai saisi le tribunal administratif, mes propriétaires ont saisi le tribunal administratif parce que les états des lieux n'étaient pas réalisés conformément au protocole. Tout a été rejeté en bloc, quoi. On n'a rien à dire. Mais jusque des dossiers qui traînent, qui ne sont pas traités, et qui, d'un jour, tout est rejeté en bloc parce qu'ils ont besoin de rentrer dans les parcelles, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'examen, en fait. Parce que ce qu'on demande, c'est juste l'application des protocoles.
Et ce n'est pas le cas, et on ne peut rien faire valoir juridiquement.
Non, les protocoles n'engagent personne. Ah. Ils n'engagent que ceux qui les ont signés. Libre à chacun de les respecter ou pas.
À l'heure actuelle, ce sont les fouilles en vue de trouver des munitions de la Première Guerre mondiale qui endommagent les terres d'Yves Courteau. Des fouilles réalisées, selon lui, en dehors des protocoles, sans réelle possibilité de recours pour les dommages causés et surtout sans respect pour la valeur du sol et le travail de la terre.
Je vois des choses, j'ai vu des choses, j'ai eu des diagnostics pyrotechniques, c'est-à-dire des recherches d'engins explosifs, quoi. Et donc normalement, quand ils entrent dans les parcelles, un sol agricole, il a plusieurs couches. Il a une couche fertile, le dessus, et le dessous, la terre d'origine est moins fertile, quoi. Et donc, normalement, quand on touche au sol, on doit mettre de côté cette terre fertile, d'un côté, et de l'autre, la terre inférieure, quoi, et les remettre dans l'ordre. Ils ne font pas du tout ça. Ils mélangent tout. On peut les voir dans la parcelle, ils ont tout mélangé, quoi. J'ai de la craie qui est remontée au-dessus. Il n'y a personne qui s'occupe de faire respecter ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Et même la chambre d'agriculture, on dit, oh. Elle me dit, oh, de toute façon, il y aura un canal dans ton champ, qu'est-ce que ça peut faire, quoi. Je suis quand même toujours dans l'idée que... Il n'est pas certain qu'il se fasse, ce canal. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai déjà eu des fouilles dans d'autres parcelles sur le premier projet de 2006. Et finalement, il n'y aura pas de canal à cet endroit-là. Moi, j'ai récupéré les terres et les dégâts qui ont été faits ont été faits. Et puis, les précautions qui auraient dû être prises n'ont pas été prises. Et puis, voilà, affaire suivante, quoi. Des projets abandonnés. Le canal Rhin-Rhône, il a été abandonné. Hein. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes, il a été abandonné. Donc, aujourd'hui, ils sont bien dans le régime de l'occupation temporaire. C'est-à-dire qu'ils doivent encore respecter les parcelles qui nous appartiennent, quoi. Enfin, ou qui appartiennent. En l'occurrence, c'est mes sœurs et mes cousines. Ils considèrent qu'ils sont déjà chez eux, et les gens aussi pensent qu'ils ont déjà perdu leur parcelle, quoi. C'est pour ça qu'ils laissent tout faire. J'ai vu des sols massacrés, je peux le dire, en termes agronomiques. Des sols qui auront beaucoup, beaucoup de mal à s'en remettre, ou à des pas de temps très longs, quoi. Et ça, c'est des choses qui sont écrites dans les protocoles signés. Il y a un guide qui a été rédigé entre la profession agricole, les chambres d'agriculture et la société du canal, qui s'appelle le guide Technosolutions, qui justement recense toutes ces bonnes méthodes pour ne pas endommager les sols. Je crois que ça sert à caler les armoires, ce guide. Je pense qu'il n'y a personne qui l'a lu. J'ajoute ça, là, je parle de mon cas. Je pratique ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, je ne laboure plus depuis 20 ans. Hein. Et voilà. Et ça, c'est des choses que je voudrais faire mesurer, mais je dis, ça, c'est pas... Ça devrait être possible dans l'état des lieux d'entrée, c'est pas fait quoi.
Oui, c'est tout un travail au long cours, un changement de pratique agricole qui vous a pris du temps, qui démontre une augmentation en fait de la valeur de la terre et un meilleur sol, et qui tout d'un coup est balayé par...
Je veux pas parler de valeur vénale parce que je...
Non, mais quand je dis valeur, c'était pas financière que je voulais dire, c'était la qualité plutôt aujourd'hui.
C'est ça. Ouais. En tout cas, enfin, vous avez raison, c'est ça, c'est un travail de... Alors, j'ai de 20 ans, peut-être même plus que ça, hein, ici, plusieurs générations, enfin, en tout cas, ce qui me concerne de plus de 20 ans, qui est balayé d'un revers de main, et ça n'a pas de valeur, et je ne parle pas de valeur vénale. Hein, et parce qu'effectivement, on n'a pas parlé de ce qu'on nous propose, hein, ce qu'on nous impose, même d'ailleurs, c'est d'aller ailleurs, quoi, en fait. Depuis 20 ans, depuis que le projet est lancé, il y a ce qu'on appelle des réserves foncières qui ont été constituées, c'est-à-dire que les SAFER, au fil du temps, pu acheter des terres à des agriculteurs, souvent des agriculteurs qui partaient à la retraite. Hein. Et forcément, 20 ans, ça a donné beaucoup de temps pour faire ça. Donc ça permet d'acheter des surfaces qui sont à peu près équivalentes à ce que va prendre le canal. Quoi. Et ces terres de SAFER vont être rétrocédées à la suite du canal, et donc elle les apporte en échange des emprises qu'elle fait. Mais ça, pour nous, ça induit d'être déplacé, quoi, de gré ou de force. Quoi. Et donc de retrouver... des surfaces, je parle même de surfaces équivalentes ailleurs, en surface, en qualité. Alors je veux pas dire que mes terres sont meilleures que celles des voisins, c'est pas vrai. Hein. Enfin, j'en sais rien en tout cas. En tout cas, elles sont le fruit de ce que j'en ai fait, quoi. Voilà.
Oui, puis c'est la valeur du travail.
C'est ça. Et ça, c'est complètement nié, quoi. La capitalisation de 20 ans de travail. T'es là, tu vas ailleurs, c'est pareil, quoi. Je parle de déplacement ou déménagement, enfin, comme vous voulez. S'il faut parler aux gens, c'est comme dire aux gens, on va raser votre maison sous vos yeux, et dire, c'est pas grave, vous irez habiter là-bas. Dans une maison qui fait la même surface. Mais c'est pas la vôtre. Alors, il se trouve, ça c'est un cas particulier, c'est vrai que c'est la parcelle les plus proches de la ferme. Bon, c'est clairement les meilleures parcelles, ça c'est comme ça. C'est aussi des très belles parcelles, elles font 600 mètres de long. Voilà. Personnellement, c'est le préjudice le plus important qu'on pouvait me faire. Bon, ça n'a pas d'importance pour les gens de la société du canal. Hein. Une grande, une petite, pour eux, c'est pareil, ils ont besoin du terrain. Quand je dis le premier tracé, j'étais impacté un peu moins, hein, peut-être à hauteur de 20% seulement, un petit 20%, 18%, là c'est plus de 25%, c'est 25% environ. Mais le fait qu'on était plus éloigné du village, c'était quand même beaucoup moins impactant, quoi. Là, je vois, enfin, il n'y a pas beaucoup d'activités hein, dans nos villages. Alors, dès qu'il y a un rayon de soleil, vous voyez les personnes du village qui vont faire un petit tour au cimetière. Ben, souvent, il y a toute leur famille au cimetière. Hein. Et ben, là, c'est de tout ça dont on nous prive. Voilà. Et en plus, hein, avec tous ces boisements là où vraiment. Enfin, du village, on ne verra plus le cimetière. Enfin, aujourd'hui, quand il y a un enterrement, bon, c'est pas période les plus heureuses de la vie, hein, mais bah, le cortège se dirige à pied de l'église jusqu'au cimetière, parce qu'il y a quoi, il y a 600-700 mètres. Demain, je ne sais pas si ça sera encore le cas. Quoi. Voilà, c'est ce lieu de vie qu'on nie, en fait, en venant s'insérer comme ça. Et le village, je le rappelle, hein, il s'est mobilisé à l'unanimité à l'époque, en 2015. Je crois que c'est une pétition avec 280 ou 290 signatures, hein, c'est un village de 400 habitants. Et il n'a pas dit non au canal, parce que, bah, de toute façon, les gens n'y connaissaient rien. Il a dit non à ce tracé qui coupe le village en deux. C'est-à-dire qu'en gros, il a dit oui au tracé qui passait au-delà du hameau et du cimetière. Quoi. Faisant confiance, d'ailleurs, c'était à l'époque de la mobilisation, faisant confiance peut-être au bon sens des gens qui nous dirigent. Quoi. Mais ça ne servait à rien, en fait. On était, comme on dit, trop bons, trop cons. Quoi. C'est peut-être, d'ailleurs... Est-ce qu'il faut en arriver là, à faire des ZAD, à faire des blocages pour être entendu? On se le demande, quoi. Nous, on est passé par la voie officielle, c'est-à-dire une pétition qui a été remise à la préfecture, quoi. Ça ne servit à rien du tout. On est venu nous amuser avec des promesses, on est venu nous dire que ce n'était pas possible de passer ailleurs, alors qu'il y avait bien deux tracés qui étaient proposés à l'époque par VNF. Hein. Pourquoi l'autre n'était pas possible?
Il y a toujours une mobilisation du, alors du non, village,
ça,
des habitants.
Ça, c'est vrai que ça, ça a été très décevant. C'est-à-dire que je reviens en 2015. Hein, on découvre vraiment le projet en avril. La mobilisation, c'est en juin. Une forte mobilisation. Hein, et là, il y a une négociation fantoche qui a lieu tout l'été avec la Société du Canal pour envisager d'autres tracés. Je crois que c'est juillet-août, ça. Et au final, août, ben voilà, la sanction tombe, rien n'est changé, c'est le tracé qui coupe le village en deux qui est retenu. On n'a rien eu à dire. Et l'enquête publique, je crois qu'elle est en septembre. Et là, les gens, ils sont abasourdis, il n'y a personne qui va à l'enquête publique, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui fait dire au commissaire enquêteur qu'il a entendu parler d'une pétition, mais qu'il est surpris, il y a très très peu de contributions. Et c'est vrai qu'il y a très peu de contributions à cette époque-là. Mais les gens, bah, comme me disent certains, on te l'avait dit, c'est le pot de terre contre le pot de fer, quoi. Et donc, bah, les gens, là, ils sont résignés. Même le maire, il y a un article à l'époque dans La Voix du Nord, le maire, il dit, bon, bah, on s'est battu, mais on ne peut rien faire de plus, quoi. Donc, c'est la résignation qui gagne tout le monde à ce moment-là. Et depuis, c'est comme ça, quoi. Alors moi, je continue, mais je suis un peu tout seul, quoi. Puis aujourd'hui, bah effectivement, et ça c'est la volonté du maître d'ouvrage, hein. Il y a des travaux qui démarrent un peu partout. Là, on voit devant nous les travaux de construction du viaduc sur l'autoroute A2. Donc bah, pour les gens, c'est tout, là c'est en route, ça va aller au bout, quoi. Et quand je dis que c'est une volonté du maître d'ouvrage, je vois qu'un peu partout, donc on abat les arbres, hein, surtout, un peu partout, pour montrer aux gens qu'on est en route. Et cette fameuse formule, hein, de Xavier Bertrand qui dit « c'est bon, on a cassé la marche arrière », quoi. Donc on va montrer à tout le monde qu'on n'arrêtera pas. Je rappelle qu'il manque la moitié de l'argent quand même.
Dans une ancienne étable transformée en petite salle de réception, Yves Courtois me présente les pancartes qu'il a fabriquées pour tenir un stand d'information lors de la brocante du village sur l'aménagement du canal Seine-Nord-Europe. Il critique le processus de concertation qui n'a pas laissé suffisamment de place aux habitants. Pour lui, la faible opposition au projet provient du manque de connaissance de celui-ci et de la difficulté de se représenter la réalité d'un aménagement qui traîne depuis plusieurs décennies.
Je crois qu'il n'y a pas longtemps, au Conseil régional, Xavier Bertrand a parlé de déni démocratique. On est en plein dedans ici. Je l'invite à venir à Ytre et je lui expliquerai ce que c'est que la démocratie et comment on la renie.
Oui, c'était pas en parlant du canal qu'il parlait de déni de démocratie.
Si. Ah si. Si, si, c'était au dernier, la dernière séance plénière du Conseil régional, où il s'offusquait qu'il y a encore des hauts fonctionnaires à Bercy qui osent remettre en cause le projet. Et donc, il a parlé de déni démocratique en disant que bah, ce projet il avait été approuvé par toutes les instances politiques qui s'étaient succédées depuis 10 ans, depuis 20 ans. Ce qui est vrai. Mais est-ce que, parce qu'on est élu, on a le droit d'imposer les projets? Ça, c'est une autre question. Est-ce que les fonctionnaires sont obligés de se taire quand ils ont des choses à dire? Ça, c'est une vraie question. La réalité de ce projet, alors on change un peu de sujet, c'est que depuis 30 ans maintenant, tous les hauts fonctionnaires qui se sont penchés sur le projet ont dit qu'il était inutile. Mais les politiques ont dit le contraire. Et c'est vrai que les politiques sont tous unis, quel que soit leur bord politique quasiment, à part peut-être un peu les gens du côté de la France insoumise, mais sont tous, et des écologistes, sont tous unis derrière ce projet dans la région. C'est ce qui avait valu en 2017, je crois, ce qu'on appelait l'appel de Péronne, à l'époque où le président Macron a osé remettre en cause le projet après qu'il ait été élu pour des questions de financement. Hein. Il y a eu ce qu'on appelle l'appel de Péronne, c'est-à-dire la mobilisation de tous les élus, députés, maires, conseillers généraux, présidents d'Interco, qui se sont réunis à Péronne avec leur fameuse formule « oui au canal ». Notez la puissance de l'argument, quand même. Hein, voilà. Et ce bras de fer qui a été entamé entre Xavier Bertrand et Emmanuel Macron, Xavier Bertrand l'a remporté, finalement. Effectivement, on a décidé de poursuivre ce canal.
Pourquoi une telle volonté? Qu'est-ce qui justifierait un tel aménagement?
Ben, je pense que pour les élus, je crois que c'est un ancien Premier ministre qui avait écrit un livre qui s'appelait « Faire ». Je pense qu'ils sont dans le faire, en fait. Ils ont l'impression que s'ils font rien, ils n'existent pas, donc... Un jour c'est un TGV, un autre jour c'est une autoroute, ben là c'est un canal. Et ce projet il est dans les cartons, je crois, pas sous sa forme actuelle, mais depuis 50 ans, depuis 1975. Donc on l'a sorti des cartons, puis on a décidé de le faire aboutir, quoi. Et il est porté par deux arguments que se mettre, que savent très bien mettre en avant les promoteurs. Il y a l'idée de mettre les camions sur la voie d'eau. Alors ça plaît à tout le monde. Hein. Qu'il y ait moins de camions sur l'autoroute, ça plaît à tout le monde. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que tout ce qui se transporte par camion ne peut pas forcément se transporter par bateau. Donc là, il y a un peu un mythe. Hein. Donc ça, il y a cet argument-là qui plaît bien aux gens, qu'il y ait moins de camions sur l'autoroute. Et puis, il y a le deuxième argument. Alors là, ce qui fait plaisir à tout le monde, c'est que ça va créer des emplois. Alors, je ne parle pas des emplois liés au chantier, parce que ceux-là, forcément, ils ne sont pas... Ils ne sont pas très durables, ça va durer 5 ans après que font ces gens-là. Mais bien des emplois qui vont être créés autour du canal. Et là aussi, c'est la bouteille à l'encre. Quand on a lancé le projet, on nous a parlé de 45 000, 50 000 emplois. Dernièrement, le même Xavier Bertrand, on nous dit 30 000, moi je dis 15 000. Enfin, moi je dis, si on ne sait pas, on ne dit pas, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait.
En 2015, le député Rémi Pauvros fait accepter une reconfiguration du projet pour économiser environ 2,5 milliards d'euros. Cette nouvelle mouture propose de supprimer une écluse, ce qui implique, pour compenser le relief, de creuser la grande tranchée de Ittre.
En gros, on se demande pourquoi on coupe notre village en deux. C'était pour économiser 2 milliards, et au final, on n'économise rien du tout. Mais nous, je ne sais pas si la société du canal économise quelque chose, mais nous, on y perd beaucoup. Donc nous, effectivement, hein, quand on dit qu'ils coupent le village en deux, alors, ils passent pas au milieu du village, hein, mais ils passent donc entre le village et puis un petit hameau qui est autour du cimetière. Quoi. Et donc quand on dit qu'ils le coupent, c'est-à-dire que je crois qu'ils passent à une quinzaine de mètres du cimetière et à 25 mètres du village. Quoi. Voilà. Et c'est pas une autoroute ou quelque chose qui est à plat, hein, c'est à 50 mètres de profondeur.
Et c'est vraiment cette reconfiguration par le député Rémi Pauvros qui modifie le tracé et qui modifie tout d'un coup le destin de Ittre.
Alors Ittre a toujours été concerné par le projet de canal.
Pas de la même manière.
En 2006, il y avait déjà eu un premier tracé. Il faut savoir qu'on est sur ce qu'on appelle la barre de relief, la ligne de partage des eaux, le point haut. Et alors forcément, quand vous avez un point haut, vous demandez si vous passez à droite, à gauche ou au milieu. Et donc, on a vu un premier. Le tracé originel était à l'ouest. Bon, je ne vais pas vous dire pourquoi, je ne sais pas. Il avait déjà été modifié, donc on a vu un passage à l'est. Mais un passage qui était proche du village, mais pas à proximité immédiate. Hein. Il était, je parle de ce hameau du cimetière, il devait être à 200-300 mètres de ce hameau-là. Quoi. Et donc à 600-700 mètres du village. Donc il était proche, il était déjà profond, on parlait d'une profondeur de 30 mètres. Mais la suppression de l'écluse a non seulement augmenté la profondeur, on passe de 30 à 47 mètres ici auprès du village, et en plus, alors pour des raisons techniques, hein, j'imagine, ils ont choisi de passer vraiment à proximité immédiate du village. Je parlais un jour d'un canal à tout prix, je pense que c'est un peu ça. J'avais intitulé ma contribution à l'enquête publique de 2015 comme ça, un canal à tout prix. Aujourd'hui, on dirait un canal quoi qu'il en coûte. Mais c'était avant 2017. Voilà. Et quoi qu'il en coûte, et je ne parle pas d'argent.
Oui, bien sûr.
Voilà. Quelles que soient les conséquences. Avec, comme je disais tout à l'heure, pour quel usage ? Ça reste une grande question. La société du canal se refuse à toute contre-expertise. Depuis ses premières études, c'est-à-dire de 2006. Quoi. C'est des choses qui ont été demandées par la Cour des comptes, qui ont été demandées par l'autorité environnementale, qui ont été demandées par le Sénat. Ils éludent. Voilà. Ils disent être sûrs de leurs prévisions. C'est une procédure qui est normalement obligatoire pour les projets depuis tous les grands projets comme ça d'infrastructure depuis 2013. Alors, eux mettent en avant l'antériorité de leur projet, puisqu'il a été déclaré public en 2008, pour ne pas se soumettre à cette contre-expertise indépendante. Pour un projet qui a, en première version, 20 ans, remettre à jour les données ne serait pas inutile quand même. Mais je pense qu'ils ont peur des conclusions de contre-expertise. Hein.
Oui, d'autant qu'il y a quand même eu cette fameuse reconfiguration en 2015. Ouais. Donc c'est plus le même projet, ça mériterait effectivement d'être réétudié de manière indépendante.
Alors cette contre-expertise, elle ne peut être demandée que par le Premier ministre. Enfin, du moins, elle est effectuée par des services qui dépendent du Premier ministre. Et je crois que depuis 2015, je vais compter, il y a eu 7 ou 8 Premiers ministres. Donc, je ne sais pas. Les Premiers ministres en question ont dit, je n'ai pas nécessaire de le faire. Enfin, c'est vraiment la première des choses qu'il faudrait faire, ne serait-ce que pour ne pas dépenser 8 milliards inutilement, quoi. Ça serait de l'intérêt de tout le monde.
Yves Courtois, agriculteur à Ittre, à propos de la construction du canal Seine-Nord-Europe.